Nous retrouvons tout de suite Agora, le magazine de la rédaction, en partenariat avec Maxentre et présenté aujourd'hui par Sophie Deschamps et Frédéric Sabourin. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour Alexandrine Leclerc. En effet, c'est vous que nous recevons aujourd'hui dans ce studio de RCF Loiret pour nous parler justement du plan EHPAD, donc bien vieillir du département du Loiret, de la complémentaire santé, puisque vous êtes vice-présidente du Loiret en charge de l'enfance, de la famille, des personnes âgées et du handicap. Alors, on va commencer comme d'habitude par un petit portrait, Alexandrine.
Bonjour.
Vous êtes âgée de 48 ans, vous êtes née à Orléans, maman de deux enfants, ex-professeur de français en disponibilité, comme on dit, de l'éducation nationale. Et votre dernier poste, c'était au collège Jean Rostand à l'Argonne à Orléans. Vous êtes engagée en politique depuis 2002 au centre droit. Vous avez été élue en 2008 adjointe au maire d'Orléans en charge des affaires sociales et conseillère communautaire de l'Aglo. En 2015, vous avez été élue conseillère donc départementale du canton d'Orléans. Vous êtes aussi vice-présidente du Loiret en charge de l'enfance, de la famille, je le disais, des personnes âgées et du handicap. Alors c'est vrai que là, l'actualité, bah, c'est ce fameux plan EHPAD, hein, puisqu'il y a eu la présentation cette semaine du plan EHPAD de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Est-ce que cette présentation vous satisfait? Est-ce que les moyens sont là? Et est-ce que ça va vraiment être une aide pour le bien vieillir, y compris ici dans le Loiret?
Alors il est vrai que le plan annoncé par Madame la ministre fait suite en fait au mouvement de grève hein, qui a eu lieu cet hiver. C'est un coup de pouce, il faut le reconnaître, c'est un coup de pouce. Les fédérations représentatives donc des différents EHPAD admettent effectivement que des moyens supplémentaires sont mis pour accompagner notamment les personnels hein, dans les établissements. Néanmoins, je pense qu'effectivement, à terme, de toute façon, ça ne réglera pas la situation de façon pérenne pour les établissements, les maisons de retraite médicalisées. Il nous faudra avoir un plan plus
ambitieux,
et à long terme. À long terme.
Frédéric Sabourin.
Dans le Loiret, la population des plus de 85 ans aura, comme partout ailleurs, doublé d'ici 2030. Actuellement, il y a 670 000 habitants dans le Loiret. Les plus de 85 ans représentent environ 20 100 personnes, enfin un peu plus de 20 000, on ne va pas chipoter pour une centaine de personnes. On y vit plutôt bien puisqu'il y a plus de 250 centenaires,
oui.
Donc ça c'est quand même plutôt...
s'accélère d'ailleurs.
Ça va continuer. Si les estimations sont bonnes, ce chiffre des plus de 85 ans passera à plus de 40 000 donc en 12 ans. J'ai fait un petit calcul, hein, je suis pas très bon en maths mais j'y suis arrivé quand même. 40 000 personnes de plus de 85 ans dans 12 ans, dont 17 200 personnes pour lesquelles on estime qu'elles seront atteintes de maladies neurodégénératives, hein, la maladie d'Alzheimer, entre autres, une des formes de la maladie d'Alzheimer, avec des troubles du comportement, contre environ 10 000 aujourd'hui. Alors vous dites, dans le dossier de presse, sur le plan Loiret bien vieillir, cette évolution, je cite, hein, cette évolution démographique est une chance pour le département. On a envie de vous demander, vraiment? Et pourquoi ? Parce que par ailleurs, c'est bien du tracas.
C'est une chance parce que faut admettre que l'on vit plus longtemps. Et donc, c'est une chance de vivre plus longtemps. Après, effectivement, plus on vit vieux, finalement, plus les risques de maladies, comme vous le disiez, neurodégénératives, peuvent apparaître. Néanmoins, c'est aussi... Un secteur d'emploi, il faut le dire, hein, l'accompagnement des personnes âgées peut être aussi une opportunité de voir l'emploi autour de ces personnes se développer, à condition, effectivement, que les établissements et que les services d'aide à domicile aussi, parce qu'il y a aussi la partie domicile, soient accompagnés en termes de formation, en termes de montée de compétences et en termes financiers aussi. Mais ça peut être, on parle de silver economy, ça peut être une opportunité économique, mais il faut le dire aussi, c'est une chance humaine de vivre plus longtemps. Donc voilà pourquoi on dit que c'est une chance pour le Loiret comme pour d'autres départements.
Pour rebondir sur la maladie d'Alzheimer, il y a eu cette annonce un peu étonnante du déremboursement des médicaments anti-Alzheimer au profit des thérapies non médicamenteuses. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise, Alexandrine Leclerc?
Je ne J'ai entendu hein, cette annonce. Je ne connais pas bien exactement les effets en fait positifs et ou négatifs ou neutres d'ailleurs de ce médicament. Ce que j'ai entendu de par les experts, c'est qu'effectivement ce médicament agit sur certains malades Alzheimer, mais pas sur l'intégralité. Je ne connais pas le coût finalement pour la sécurité sociale de ce médicament. Néanmoins, avant de faire ce type d'annonce, je pense quand même qu'il faudrait consulter et faire attention aux malades pour qui ça bénéficie. Et parler d'un déremboursement total, intégral comme ça, l'annonce est un peu rude.
Alors on parle d'effets secondaires indésirables ou gênants. Et c'est peut-être aussi l'occasion de mettre l'accent sur les thérapies non médicamenteuses, parce qu'on sait aussi que l'accompagnement, c'est important pour la maladie d'Alzheimer. Et est-ce que là aussi, vous pensez que l'État va mettre les moyens? Est-ce que le Loiret va mettre les moyens également?
Alors, pour les thérapies non médicamenteuses, c'est vrai qu'on avance. On avance dans le Loiret, comme on avance aussi au niveau national. Hein. La recherche, les expérimentations sont faites. On parlait par exemple de jardins thérapeutiques et qui se développent de plus en plus en fait dans les établissements médicalisés ou non médicalisés d'ailleurs, qui est en prévention en fait de la maladie. On parle aussi des petits robots comme ça qui apparaissent dans les établissements maisons de retraite qui apportent des robots sous forme de peluches de chiens comme ça.
Ils servent à quoi ?
Voilà. En fait, ça éveille chez des malades neurodégénératifs, ça éveille encore des sensations, voire même ça fait ressurgir des souvenirs.
C'est mieux que l'humain, ça ?
Alors, je ne dis pas que c'est mieux que l'humain, je dis que c'est un outil. C'est un outil.
Un outil complémentaire de l'humain.
Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ce sont des exemples en fait d'expérimentation, de non médicamenteux. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse se passer de toute façon de traitements médicaux. Et de ce point de vue-là, il nous faut accompagner vraiment la recherche. Et les moyens de la recherche n'y sont pas.
On sait aussi que la présence d'animaux, hein, ça peut également stimuler les personnes qui ont tendance à se replier sur elles-mêmes.
J'étais allée voir, effectivement, c'était dans les pattes de la Reine Blanche à l'époque, qui avait fait venir
à Orléans,
un chien. Et les malades étaient ravis de pouvoir caresser le chien. C'était super.
Le plan Loiret est bien vieillir, c'est 158 millions d'euros, hein, c'est pas une petite bagatelle. Vous dites que l'objectif est d'adapter les établissements aux besoins actuels et futurs des résidents. La question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on les connaît, ces besoins actuels et futurs, et quels sont-ils ?
Alors, en fait, lorsqu'on a lancé le plan Loiret bien vieillir, il nous a fallu nous donner un cadre et un référentiel, qu'on appelle ça. Et en fait, ce référentiel a été élaboré et travaillé avec les gestionnaires des EHPAD. Parce que
avec les professionnels.
Tout à fait.
Qui ont les mains dedans tous
voilà,
les jours.
Voilà, voilà. Donc, on a eu plusieurs modes d'agir. Nous avons consulté les familles sur leurs besoins et leurs desiderata. Nous avons travaillé donc avec les gestionnaires et les personnels soignants et médico-sociaux de ces établissements pour élaborer ce référentiel. Ce référentiel, c'est effectivement quels sont les besoins aujourd'hui et surtout à venir d'après notre expertise, notre compétence, notre professionnalisme et nos désirs en tant que famille et résident de ce qu'on souhaiterait d'un EHPAD médicalisé, donc d'une maison de retraite médicalisée dans 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ?
Oui, par exemple, oui.
Ce qui est criant, c'est effectivement, on entre de plus en plus tard en fait en maison de retraite et donc de plus en plus dépendant. Ce qu'il manque, c'est le personnel. Faut dire les choses.
Il faut pas se cacher derrière son petit doigt.
Pas du tout.
Vous disiez au début, c'est créateur d'emplois, mais,
oui.
Mais finalement, pas encore assez par rapport aux besoins des EHPAD.
Ils font non seulement une montée en compétences des personnels, parce que les maladies sont de plus en plus lourdes,
ouais,
la dépendance est de plus en plus compliquée, et donc la charge de travail de ces personnels est lourde, mais il faut aussi des moyens techniques. Il faut poursuivre la recherche. Alors je disais la recherche pour lutter contre la maladie, mais aussi les moyens techniques qui soulagent les personnels. Alors, il y a eu des avancées hein, pour les transferts de lits à fauteuils, etc. Mais on peut aussi travailler là-dessus.
On en reparle dans un instant.
RCF. La joie se partage.
Vous écoutez Agora en partenariat avec Maxentre sur RCF Loiret. Nous sommes en compagnie d'Alexandrine Leclerc, vice-présidente du Loiret en charge de l'enfance, de la famille, des personnes âgées et du handicap. Et nous parlons notamment de ce plan bien vieillir dans le Loiret. Vous parliez des moyens techniques. On parle aussi beaucoup de télémédecine aujourd'hui, de médecine à distance, d'outils techniques. Est-ce que ces outils ont leur place dans les EHPAD, Alexandrine Leclerc?
Ils pourraient avoir leur place parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que dans le département, on a une démographie médicale en berne et qu'on cherche par tout moyen aussi à...
Donc de médecins.
Oui, de médecins généralistes, mais aussi des spécialistes et de gérontologues. Donc on cherche par tous les moyens à pallier à cette situation. La télémédecine, c'est pareil, est un moyen de pouvoir pallier, ça remédie pas tout, hein, à tout, hein, mais les établissements eux-mêmes sont concernés par le manque de médecins en fait qui viennent visiter régulièrement les résidents. Alors des résidents qui peuvent être encore en bonne santé, mais des résidents aussi qui sont atteints de différentes maladies.
Alors on le disait, des résidents âgés, parfois c'est délicat de les déplacer. Il y a aussi des préconisations pour renforcer l'hospitalisation sur place dans les EHPAD. Là, la télémédecine peut aider ou est-ce qu'il y a d'autres moyens?
Non, ça peut aider. C'est un moyen de consultation pour les personnels, les aides-soignantes, les infirmières pourraient consulter à distance aussi pour les aider dans l'accompagnement des résidents, consulter des médecins par ce biais. Il y a des consultations qui sont simples et puis des consultations beaucoup plus complexes. Donc pour des consultations simples, effectivement, la télémédecine peut être un outil intéressant.
On sait aussi qu'il y a des problèmes souvent d'absence de personnel médical la nuit. Donc il y a l'idée de faire des astreintes de nuit.
Alors la ministre effectivement souhaite, alors maintenant il faut encore, on va dire on parle de moyens, mais effectivement il faut qu'il y ait les moyens pour le faire.
Il faut passer des paroles aux actes.
Voilà, donc souhaite que à terme, alors je ne sais pas non plus le terme, mais qu'il y ait dans chaque maison de retraite médicalisée au moins une infirmière la nuit.
Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ce qui n'est pas le cas partout. Alors, il y a des établissements où il y a une infirmière de nuit, mais il n'y en a pas partout, effectivement. Parce qu'effectivement, ça se rémunère.
Et puis, il y a des EHPAD qui prennent l'eau. Ça a été le cas de celui de Failly-aux-Loges en 2016.
Il y a des prisons qui prennent l'eau, des EHPAD qui prennent l'eau. Tout prend l'eau en ce moment. Les caves.
Absolument. Ah, c'était il y a deux ans. Mais là, enfin, effectivement, avec les orages, là.
Là, c'était il y a deux ans. Et il y a eu, c'est vrai qu'on se rappelle, hein, beaucoup de résidents ont dû être
évacués
oui. pendant de longs mois oui. avec tous les dérangements
Bien
et perturbations
sûr.
que ça peut avoir. Il y a donc du coup un projet de reconstruction d'un EHPAD,
oui.
mais pas sur place, bien sûr.
Non, pas sur place. Le maire de Failly-aux-Loges a réservé un terrain déjà, et donc nous sommes en cours de finalisation en fait du projet. Donc l'EHPAD sera reconstruit à Failly-aux-Loges, mais pas sur le même lieu.
Alors est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que du coup il va y avoir des améliorations apportées? Est-ce qu'on va y construire un EHPAD moderne?
Oui, c'est le cas.
Sur pilotis.
Alors je ne sais pas.
Avec des tyroliennes pour aller.
En tout cas, on se donne les moyens pour qu'effectivement ce nouvel établissement ne connaisse plus la situation qu'elle a pu connaître il y a deux ans. Mais ce plan EHPAD, en fait, alors certes, c'est une reconstruction à Failly-aux-Loges, mais il y a une vingtaine d'établissements, de maisons de retraite concernées dans le département. C'est 22 millions que met le département sur la table pour accompagner les établissements. 7 millions de la région aussi, on n'oublie pas, par le biais de subventions en fait d'investissement. Certains projets, certaines reconstructions sont déjà lancées et d'autres sont en cours de finalisation de leur dossier.
Mais concrètement, pour bien comprendre, Alexandrine Leclerc, quelles innovations architecturales ou dans la disposition des lieux vont être apportées pour, là aussi, une meilleure prise en charge?
Je vais vous donner un exemple. On va vers vraiment de la... Alors, c'est pas de la domotique appliquée aux EHPAD, mais on essaie vraiment d'aller vers des nouvelles technologies intégrées, en fait, dans les maisons de retraite médicalisées qui aideront et les personnels, qui va faciliter, simplifier, alléger le plus possible le travail des personnels, mais aussi essayer de conserver de l'autonomie pour les résidents. Donc je pourrais pas expliquer là quels sont exactement les ces dispositifs, mais vraiment c'est intégrer les nouvelles technologies dans les établissements.
Alexandrine Leclerc, le plan Loiret bien vieilli, on en parle là ce matin avec vous, avec le conseil départemental du Loiret. On est sur RCF, on aime bien aussi parler des questions d'éthique. Le 16 mai dernier, le comité consultatif d'éthique a publié un avis assez alarmant et sévère sur la prise en charge des personnes âgées en France. Ça a fait la une du Monde avec ce titre « Choc », comment la France maltraite ses vieux. Ça a le mérite d'être cash, tout le monde a compris. Ce comité consultatif d'éthique parlait de dénégation collective, je cite, du vieillissement, une maltraitance latente non assumée. Et il évoque aussi l'institutionnalisation forcée et même une forme de ghettoisation au sujet de la concentration des personnes âgées dans les EHPAD. Enfin, le comité consultatif d'éthique parle d'une politique envers les personnes âgées vulnérables inadéquate et irrespectueuse. C'est à charge.
C'est lourd.
C'est lourd, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Mais vous, vous avez l'habitude de traiter ces problèmes, ces sujets. Vous allez dans les EHPAD, vous rencontrez des gens, etc. Que pensez-vous de ce constat, malgré tout ?
C'est vrai qu'il est, il est rude comme constat.
Exagéré, vous diriez ?
Il est exagéré ou il est quand même un peu vrai ?
Il est exagéré. Il est exagéré parce que c'est remettre en cause toutes les volontés réunies de vouloir agir sur cette question du vieillissement des personnes. Et c'est dur quand on est dedans, qu'on donne son temps, son énergie, c'est dur. Ce constat est dur. Néanmoins, faut pas non plus, on le disait tout à l'heure, faut pas non plus cacher les choses.
Faut pas faire d'angélisme.
Voilà.
Il y a eu des manifestations de personnel qui ont montré quelque chose.
Et elles sont légitimes. Elles sont légitimes. On est aussi dans une société, comme on dit, du jeunisme. Et je crois que la question du vieillissement de la population n'a pas été prise en compte bien assez en amont. Et aujourd'hui, on se trouve confronté effectivement à des personnes âgées qui vieillissent plus longtemps et une espérance de vie qui s'allonge. Et cette question n'a pas été assez, à mon avis, anticipée. D'où, effectivement, le cinquième risque qui réapparaît. Je crois qu'on
régulièrement,
va... ça réapparaît.
Mais comme le monstre du Loch Ness, de temps en temps,
mais je crois qu'il va falloir qu'on pose le débat, qu'on repose le débat et qu'on pose la question.
Et comment est-ce que les départements, c'était la question que j'allais vous poser, comment est-ce que les départements peuvent être moteurs, justement, dans cette action du cinquième risque, de le pousser pour que ça finisse par aboutir? Comment est-ce que, politiquement, j'ai envie de dire, vous pouvez être un levier?
Nous serons,
en tapant du poing sur la table, certes.
J'espère bien que nous serons un levier par l'Assemblée des départements de France qui est vraiment le
un poids politique
important. Oui, et qui est l'interlocuteur principal en fait des ministres.
Le Loiret tout seul ne peut pas.
Non, le Loiret tout seul, on ne va pas monter au créneau, ça n'aura pas de sens. En revanche, l'Assemblée des départements de France qui est en discussion avec les assemblées parlementaires et avec le gouvernement pourra effectivement être acteur et moteur sur cette question.
Une des propositions, j'en termine avec ce comité consultatif d'éthique, il faisait quand même des propositions, il ne faisait pas que des constats à charge, c'est heureux. L'article du Monde était bien fait parce qu'il le relatait correctement. Une des propositions, par exemple, c'était de dire quand on va construire des logements neufs pour tout un chacun, pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas un deuxième ou un troisième étage dans les logements collectifs, avec des EHPAD hors de l'EHPAD. C'est-à-dire, on y mettrait des personnes âgées, dépendantes, vieillissantes, avec un système d'EHPAD qui ne soit pas concentré au même endroit, ce qui permettrait un mélange de la population, un bien vieillir, alors là, pour le coup, un mieux vieillir. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? C'est que c'est réaliste ou
c'est réaliste.
C'est une question de volonté, ça.
C'est réaliste, et ça tombe très bien que vous me posiez la question, puisque à la rentrée, après l'été, nous allons au département lancer une journée de politique publique sur l'habitat inclusif. Nous souhaitons aller vers l'inclusion. Alors l'inclusion, effectivement, c'est lié au handicap, on pense handicap, mais pas que. Et on va travailler sur l'habitat inclusif qui est en fait un mix entre le tout institutionnalisation ou le rester à domicile. Et ce serait effectivement... alors, on va voir comment ça peut s'organiser, mais on a vraiment cette réflexion et cette volonté d'y aller. Donc maintenant, à nous d'y travailler et de faire, vous serez invité si vous le souhaitez cet automne. Mais effectivement, c'est une question sur laquelle on va se pencher très sérieusement.
Oui, d'autant que la ministre Agnès Buzyn, ministre de la Santé, préconise aussi finalement l'accueil de personnes âgées dans des familles d'accueil. On pense à celles qui sont en bonne santé et qui n'ont pas forcément de famille autour d'elles. Ça aussi, c'est une piste qui intéresse le Loiret.
Mais en fait, toutes les pistes sont intéressantes. Il faut que l'on soit en mesure de proposer une diversité de solutions aux personnes âgées selon leurs souhaits, selon aussi des gages de sécurité, effectivement, et selon, bien évidemment, l'état de santé. Mais il faut qu'on puisse laisser le choix, finalement, aux personnes elles-mêmes. C'est vraiment tout le mot d'ordre, en fait, j'allais dire, du schéma de cohésion sociale que nous avons voté au département il y a maintenant un an. C'est l'accompagnement et le choix de vie de la personne.
RCF, la joie se partage.
C'est toujours Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre, avec un zoom sur l'action sociale du Loiret en compagnie d'Alexandrine Leclerc, vice-présidente du Loiret en charge de l'enfance, de la famille, des personnes âgées et du handicap. Alors il nous reste quelques minutes, Alexandrine Leclerc. On va parler également d'un dispositif important du département, c'est cette fameuse complémentaire santé que vous avez mis en place il y a maintenant 2 ans.
Oui. Alors, presque 2 ans.
Première question, est-ce que cette complémentaire, finalement, elle séduit les Loiretains et est-ce qu'il y a beaucoup d'adhésions?
Les adhésions montent au fur et à mesure des mois.
Vous avez une idée d'un chiffre ou
Non, j'ai pas. Ouais. Je suis désolée, j'ai pas les chiffres là. Mais je sais que c'est en progression constante de mois après mois.
On peut rappeler juste
en amont. Oui, voilà, on va rappeler. En fait, le constat qui avait été fait, c'est qu'il y avait une proportion non négligeable de Loiretains qui, pour des causes, on va dire, budgétaires, financières,
quasi majoritaire.
Voilà, n'avait pas de complémentaire santé. Et en tant qu'action sociale, en tant que solidarité, en fait, politique de solidarité, nous avons souhaité rendre accessible une complémentaire santé au plus de Loiretains possible. Pour cela, nous ne pouvions pas, de façon réglementaire, juridique, passer par le Code des marchés publics. Nous sommes passés par une association qui est Axiom, et qui, cette association, est chargée finalement de négocier avec des assureurs ou des mutuelles des tarifs.
Un courtier associatif.
Voilà, des tarifs défiant toute concurrence pour accéder, pouvoir accéder à une complémentaire santé. Et effectivement, les prix sont très attractifs. J'ai moi-même adhéré en fait à ça.
Ah oui, il n'y a pas y a une condition minimale
condition,
de ressources ou
La condition, c'est habiter le Loiret ou y travailler et pouvoir faire la preuve qu'on y travaille. Maintenant, parce que les tarifs sont négociés, parce que les tarifs sont accessibles, c'est un moyen pour les Loiretains qui ont des ressources modestes, qui n'ont donc pas la CMUC, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas minima sociaux, mais qui n'ont pas non plus les ressources nécessaires.
Ils sont dans cet entre-deux, là,
c'est
juste à la frontière.
C'est l'entre-deux. Voilà, oui. De pouvoir accéder, finalement, à une complémentaire santé. Mais c'est accessible à tout Loiretain.
Alors, vous disiez des tarifs attractifs, mais est-ce que la couverture et les garanties sont-elles aussi attractives? On pense notamment aux lunettes ou
les
soins dentaires. On sait que c'est souvent les soins les moins bien remboursés.
L'audition
oui,
aussi
chez les personnes âgées.
Oui. Donc, en fait, l'association propose jusqu'à 11 contrats différents. Et effectivement, on y trouve ce que l'on veut. C'est-à-dire que si notre sujet de préoccupation en termes de santé, c'est l'audition, c'est l'optique, on voit qu'en fait, dans les différents contrats qui sont proposés, on peut miser sur un remboursement plus intéressant sur l'optique ou l'audition ou sur l'hospitalisation. Tout dépend aussi de ces problématiques de santé, mais on trouve dans le panier en fait offert ce qui nous convient bien.
C'est évolutif parce que les besoins de santé peuvent évoluer également au cours de la vie.
Bien sûr, on peut changer de contrat en fait année après année. Ce n'est pas la loi le permet et on ne contractualise pas pour 10 ans. On peut changer selon aussi son état de santé.
C'est une expérience unique en France, cette complémentaire santé, ou il y en a d'autres à
votre
connaissance?
Des communes avaient commencé en fait à aller sur ce dispositif. Néanmoins, c'est le département du Loiret qui a été le premier en tant que département en fait à pouvoir lancer cette complémentaire accessible à tous en France.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandrine Leclerc. Donc, nous parlions du plan Bien vieillir dans le Loiret et également donc de cette complémentaire santé, puisque vous êtes la vice-présidente du Loiret en charge de l'enfance, de la famille, des personnes âgées et du handicap. Merci beaucoup, Frédéric Sabourin.
Merci à vous.
Merci.
Cette émission est bien sûr à retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxcentre, maxcentre.fr. Bon appétit à tous.